Ma ville, ma région, l'actualité de Dijon Métropole.
Je suis avec Sylviane Flamand du comité local du MRAP et avec les autres membres du bureau du MRAP en Côte d'Or. Et pour parler de l'exposition qu'ils ont tenue dans les locaux de la Maison des Associations à Dijon du 29 avril au 11 mai. Donc déjà, est-ce que vous pourriez justement nous parler de cette exposition et récapituler ce qu'elle représentait ?
Alors, très rapidement, donc c'est une exposition qui commémore, qui évoque plus exactement toute cette période de l'histoire que beaucoup de gens ne connaissent pas et qui parle de la traite esclavagiste et de la situation des esclaves dans les territoires où il y avait des plantations. Et puis, surtout, cette exposition montre que, en fait, ça n'était pas une acceptation passive de la part des esclaves. Il y a eu des révoltes, il y a eu des souffrances, évidemment, et il y avait également un enrichissement qui était celui des planteurs et indirectement celui de notre pays par la suite. Ce système esclavagiste s'est donc construit sur un système colonial, puisqu'il y a eu occupation de certains territoires ultramarins pour mettre en place ces plantations.
Oui, c'est ça, le titre de l'exposition, c'était « La mémoire de l'esclavage et ses abolitions ». Vous me disiez que c'était une exposition donc, que vous aviez acquis auprès de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, c'est ça ?
C'est bien ça, voilà.
Et quelle réaction elle a pu susciter cette exposition pendant qu'elle était exposée ici à la Maison des Associations ?
Moi, j'ai quand même remarqué au tout début, au moment du vernissage, une grande attention et beaucoup de... une grande attention, une certaine émotion aussi de la part de gens qui sont venus sur la base de l'annonce de cette exposition.
Et vous me disiez que maintenant, justement, l'objectif avec cette exposition, ce serait de la présenter dans des établissements scolaires. C'est le but de l'exposition ?
Bien sûr, elle doit être vue, cette exposition, puisque... Elle retrace notre histoire. C'est d'ailleurs son titre choisi par la Fondation de la mémoire de l'esclavage. C'est notre histoire à tous, qu'on soit descendant de métropole ou des territoires ultramarins. D'une manière ou d'une autre, elle fait partie de notre histoire et il faut absolument qu'elle soit connue, comprise. Alors pourquoi ? Parce que essentiellement, on a une forme particulière de racisme en France qui est extrêmement qui cible, pas que, mais en particulier, les populations qui ont la peau noire ou qui sont métisses d'ailleurs, simplement par le fait qu'on les assimile à des populations qui ont été soumises. Et on oublie simplement les conditions particulières de cette soumission, d'une part, et le fait que ces populations-là ne représentent pas toutes les populations à peau noire, évidemment, voilà, qui existent à travers, que ce soit en Australie, en Inde, les couleurs de peau ne représentent absolument pas cette hiérarchisation des races, je mets des guillemets à races, qui a été diffusée en Europe et en particulier en France, pour justement justifier, entre guillemets toujours, justifier les questions donc de hiérarchie, et pour justifier l'esclavage et le système colonial.
Et la loi dite loi Taubira de 2001, elle reconnaît l'esclavage et la traite des Noirs comme un crime contre l'humanité. Qu'est-ce que ça apporte, cette reconnaissance ?
Je crois que c'est essentiel, même si malheureusement beaucoup de gens ignorent, ce n'est pas suffisamment connu, mais cette loi, elle marque, on va dire, c'est un signal fort pour qu'on comprenne la gravité de ce qui s'est passé pendant plusieurs siècles et qui a à la fois généré une dépopulation très conséquente en Afrique, d'une part, d'autre part, des situations d'esclavage aussi bien la Martinique, la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane évidemment, voilà, tous ces pays, la Nouvelle-Calédonie aussi, ce sont des territoires qui ont été, on va dire, complètement transformés, mais pas dans le bon sens du terme, à la fois parce qu'il y a eu des populations déportées dessus, mais aussi parce que la végétation a été complètement bouleversée par des plantations. Et les plantations, on en connaît maintenant bien sûr les effets, c'est une disparition complète de la diversité biologique de départ d'une végétation. Je n'oublie pas que dans le crime contre l'humanité, c'est essentiellement les dégâts sur les populations, les traumatismes tous les traumatismes se répercutent de génération en génération. Quelquefois, on n'en est pas conscient, mais c'est quelque chose qui existe. Et ces traumatismes qui font que des populations ont perdu leurs racines, c'est quelque chose de terrible. C'est une déculturation, c'est une perte de filiation, et c'est quelque chose, sans compter bien sûr tous les sévices que des gens ont subis pendant sur des générations, quoi, et par millions, parce que l'esclavage n'a pas été que français, il a été largement utilisé par toute l'Europe. Alors je parle de cet esclavage précis parce que c'est avec la traite et le commerce dit triangulaire, c'est quelque chose qui est spécifique à l'Europe. Il y a eu de l'esclavage à travers l'histoire, ailleurs, bien évidemment, et dans l'espace aussi, hein, dans l'espace géographique de la Terre. Mais ce niveau d'exploitation n'a jamais été réalisé nulle part. Voilà. Et c'est en ce sens que crime contre l'humanité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça a été adopté à l'unanimité.
Il me semble que la France est l'un des seuls pays, en tout cas, à avoir adopté cette reconnaissance. Est-ce que la France est un modèle sur cette question-là ou...
Non, je pense que c'est simplement une prise de conscience, peut-être pionnière, on va dire ça, mais en tous les cas, c'est pas un exemple dans la mesure... Enfin, ça peut apporter peut-être... être repris par d'autres, on espère, mais c'est vraiment... Une définition qui mérite d'être portée plus largement dans l'Europe, puisqu'on parle beaucoup de l'Europe en ce moment, ça serait bien que ce soit porté au niveau européen.
Et est-ce que cette histoire est encore sensible dans les mémoires aujourd'hui ? Vous parliez par exemple des conséquences, je pense à la situation en Haïti où il y a beaucoup de personnes qui considèrent que c'est un peu les conséquences de l'esclavage et de la colonisation qu'il y a pu avoir sur cette île. Est-ce que c'est encore une question qui est taboue dans les mémoires ?
Alors Haïti, c'est particulièrement terrible parce que Haïti a été la première colonie à s'émanciper d'une façon très sanglante, il faut le reconnaître. Hein, et c'est le problème de tous les peuples soumis, à un moment donné, d'utiliser tout moyen à leur portée. Et il y a eu des massacres, effectivement, de planteurs, de colons, des plantations incendiées. Mais il ne faut pas oublier non plus les sévices qui ont été vécus par ces populations esclavagisées auparavant, d'une part. Et d'autre part, Haïti était la perle des Antilles, et c'était vraiment la colonie la plus florissante, entre guillemets, pour les planteurs et pour l'État français de l'époque, hein, aussi bien depuis la royauté, l'Empire, voilà, parce que c'était vraiment, le sucre était considéré à l'époque comme une denrée extrêmement, qui rapportait énormément. Je ne sais pas si la rente pétrolière peut se rapprocher de cela, enfin, mais c'était vraiment une richesse fabuleuse. Voilà, et qui a enrichi donc non seulement les planteurs, mais les armateurs et tout ce qui gravitait autour de cette industrie, on peut dire déjà, du sucre. La France, à l'époque, s'est enrichie considérablement par le commerce du sucre. Haïti a été la première, à la suite de sa sanglante révolte, a été la première à se déclarer république. Le directoire, alors là je suis moins sûre de mes sources, mais il me semble que c'est le directoire qui a accepté la déclaration d'indépendance en y mettant des conditions et en particulier le fait de racheter la liberté. Et l'endettement d'Haïti a duré sur plusieurs centaines d'années. Enfin, quand je dis plusieurs, oui. Et Haïti n'en est jamais sorti du sous-développement du fait de cet endettement qui a été imposé par la France à l'époque. Et c'était vraiment une mesure, on va dire, de rétorsion, de vengeance, on peut appeler ça comme ça, de la part des puissants à l'époque qui gouvernaient la France.
Oui, et c'est un peu le but, je pense, de cette exposition, de rappeler, de prendre un recul historique pour rappeler justement ces dettes qui sont encore lourdes pour certains peuples. Et pour finir, je voulais qu'on parle, il me semble que c'était aussi mentionné dans l'exposition, des nouvelles formes d'esclavage, d'un esclavage qui peut-être est moins visible et qui pourtant est tout aussi dangereux que les précédents. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Mais l'esclavage aujourd'hui, il peut s'appeler autrement, il peut s'appeler servitude, mais les effets sont assez sensiblement les mêmes. C'est-à-dire que des populations, pour beaucoup de raisons, en particulier sur un terrain de misère, de difficultés économiques, qui sont quelquefois passagères et qui pourraient être résolues, mais qui ne le sont pas. Donc les familles s'endettent, parfois vendent des enfants. Les livres à des... Alors, ça peut être pour des mariages forcés, mais ça peut être aussi pour des réseaux de prostitution. Il y a des femmes aussi, il n'y a pas que... Il y a même des garçons. Mais il y a aussi le fait que beaucoup de travailleurs livrent leur force de travail dans d'autres pays, et y compris partout, pas seulement en France, mais on va dire partout dans le monde. Il y a donc des populations qui... émigrent, alors pour le coup volontairement, mais je mets aussi des guillemets, poussés par des difficultés qui leur rendent la vie impossible, et ils vont donc, ils et elles, vont louer leur force de travail dans des pays où ils sont généralement très mal accueillis, bien évidemment, très mal payés quand ils le sont, au prix d'énormes difficultés, parce que ce sont des migrations économiques, donc, qui se font dans des difficultés de voyage très éprouvantes. D'ailleurs, parfois, certains n'arrivent pas au bout du voyage. Voilà. Et donc, cet esclavage moderne, il existe parce qu'il y a d'énormes inégalités entre pays, entre le Nord et le Sud, pour aller vite, hein. Encore que l'Australie est au sud, mais voilà, il y a vraiment, tant que cet ordre économique inégalitaire subsistera, il y aura malheureusement de l'esclavage. Voilà. Et j'oubliais effectivement l'impact des guerres aussi, qui produit des prisonniers qui sont quelquefois exploités aussi de toutes sortes de manières. J'aurais voulu parler aussi des populations de Guadeloupe, Martinique, réunionnaise, guyanaise, comme Christine Taubira, qui est originaire de Guyane, pour dire que ces populations-là vivent encore les effets de la servitude du passé, et en particulier, sur le plan économique, de grandes difficultés à trouver du travail, parce que ces territoires-là sont encore rattachés à la métropole par des liens de sujétion Et en particulier, on le sait, puisque les plantations existent encore. Je prendrai l'exemple de la banane, avec cette intoxication au chlordécone qui a été longtemps tue en Martinique et en Guadeloupe notamment, parce que les intérêts économiques prenaient le dessus sur la santé publique des populations. Voilà. Et malheureusement, chaque fois qu'on prend en considération d'abord le profit avant l'humain, eh bien, on arrive à des dérives terribles, quoi. Et en particulier, je veux dire que l'esclavage en est une toute particulière, mais malheureusement, elle n'est pas la seule.
Merci à vous, Sylviane Flamand.
Je vous en prie, merci à vous.
Ma ville, ma région, l'actualité de Dijon Métropole.